VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 19 décembre 2017, en direct de Washington, Idrissa Sedoulia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, l'opposition maintient son appel à une marche pacifique malgré l'interdiction de la manifestation par les autorités de Kinshasa.
Au Cameroun, 4 gendarmes tués dans l'ouest anglophone par des séparatistes présumés.
En Côte d'Ivoire, comparution hier de l'ancien ministre Hubert Houlaye devant la cour d'assises d'Abidjan pour complicité d'assassinat en 2012.
Discours du président américain Donald Trump sur sa stratégie de sécurité nationale. La Chine et la Russie, des défis à la grandeur des États-Unis.
Et l'administration Trump use de son veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer une résolution sur sa reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, la marche de l'opposition prévue aujourd'hui est interdite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, mais maintenue par ses organisateurs. Au nom du rassemblement de l'opposition, l'UDPS a appelé à cette marche pacifique pour réclamer la tenue des élections conformément à l'accord du 31 décembre 2016. Précision de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Prenez au sérieux cette marche de sommation. Sortez massivement, je serai avec vous. Ils ont peur car ce n'est plus qu'une question de quelques jours, a déclaré Félix Tshisekedi pour inviter ses sympathisants à la marche que l'UDPS au nom du rassemblement a prévue ce mardi 19 décembre 2017. Le président du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a par ailleurs rappelé à l'assistance que c'est le peuple qui est souverain et que ceux qui disent que Kabila ne partira pas par des marches ont tout faux. En réaction à cette activité que compte organiser l'opposition, le gouverneur de la ville de Kinshasa a, à travers une correspondance, refusé de prendre acte de la manifestation de ce jour. En clair, André Kimbuta interdit la marche de l'opposition et demande à la police de prendre des mesures pour en empêcher l'organisation. L'UDPS a, malgré cette interdiction, maintenu sa manifestation, ce qui laisse entrevoir un bras de fer dans les rues de la capitale de la RDC. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Cameroun, 4 gendarmes ont été tués hier dans l'ouest anglophone lors d'une attaque de séparatistes présumés dans la localité de Kembong. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Kiroma. Ce nouvel incident porte à 15, en moins de 2 mois, le nombre de membres des forces de sécurité tués dans les régions anglophones en proie à une grave crise sociopolitique depuis 1 an.
En Côte d'Ivoire, Hubert Houlaye, un ancien ministre du président Laurent Gbagbo, a comparu hier devant la cour d'assises d'Abidjan. Il est accusé de complicité d'assassinat dans le cadre de la mort de 7 casques bleus et de 8 civils en 2012. Le point avec Solange Niamoulissa.
Ancien ministre de la fonction publique et porte-parole du gouvernement de l'ex-président Laurent Gbagbo dans les années 2000, M. Houlaye, 64 ans, a fait 2 ans de détention préventive entre mai 2015 et juin 2017, était présent au palais de justice. Il lui est reproché d'avoir fourni, via des intermédiaires, 2 millions de francs CFA pour acheter des armes qui vont servir à perpétrer des attaques. 7 casques bleus nigériens et 8 civils avaient été tués dans une attaque en juin 2012, non loin de Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dont est originaire l'accusé. Maître Toussaint Dako, l'un de ses avocats, a dénoncé un procès politique et un dossier vide. La première journée d'audience a été consacrée au co-accusé, Maurice Diré, qui s'est présenté sans avocat. Il a affirmé devant la cour avoir été torturé lors de ses interrogatoires par la police. Par ailleurs, seul un témoin sur les 5 cités par l'accusation était présent. Le procès doit reprendre aujourd'hui à Abidjan.
Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a succédé hier au président Jacob Zuma à la tête du Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir depuis 1994. La principale tâche de ce potentiel futur président du pays, redorer le blason du parti d'ici aux élections de 2019. Monsieur Ramaphosa avait comme unique rival Nkosazana Dlamini-Zuma, l'ex-patronne de l'Union africaine, américaine et ancienne épouse du président actuel.
Les rebelles du Soudan du Sud ont accusé les troupes gouvernementales d'avoir attaqué une de leurs bases à quelques heures de la reprise des négociations de paix à Addis Abeba, en Éthiopie. Des détails avec Jacques Aristide.
L'un des porte-parole des rebelles, Lampol Gabriel, a précisé que l'attaque a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans la ville de Lassou, dans le sud du pays. D'après lui, les soldats ont pris position dans la base du mouvement rebelle IO. Pour sa part, un porte-parole de l'armée a déclaré que 4 travailleurs humanitaires de l'association française Solidarité Internationale avaient été enlevés dimanche par des rebelles près de la ville de Raja, dans l'ouest du pays. L'ONG a dit être sans nouvelles de 3 de ses employés depuis samedi. Les pourparlers de paix dans la capitale éthiopienne se déroulent sous les auspices de l'IGAD, bloc regroupant 8 pays de la région, et visent à ramener les factions rivales à la table des négociations. La guerre civile sud-soudanaise a fait des dizaines de milliers de morts depuis 2013. Le conflit a été déclenché par la rivalité entre le président Salva Kiir et son ancien adjoint Riek Machar, qui vit hors du pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a averti hier que la grandeur de son pays est défiée par des puissances rivales, mais s'est engagé à utiliser tous les instruments à sa disposition pour, je cite, « enflammer le réveil américain », prononçant un discours sur sa stratégie de sécurité nationale ici à Washington. M. Trump a dit que la Chine et la Russie étaient ses principales préoccupations, estimant que ces deux pays cherchent à remettre en cause les valeurs, l'influence et la richesse de l'Amérique. Mais a-t-il assuré ? L'Amérique ne reculera pas face à ces défis pendant sa présidence. Monsieur Trump a aussi critiqué les politiques de ses prédécesseurs, disant qu'ils avaient perdu de vue la destinée de l'Amérique et perdu leur foi dans la grandeur de l'Amérique et cédé à des bureaucrates étrangers la souveraineté nationale. Il a reproché aux précédentes administrations de n'avoir pas confronté la Corée du Nord et ses ambitions nucléaires, et à Barack Obama ce qu'il a appelé l'accord nucléaire désastreux avec l'Iran. Nous reviendrons sur ce discours en seconde partie.
Et puis l'administration Trump a usé de son premier veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer une résolution rejetant la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et de transférer prochainement son ambassade dans cette ville. Les États-Unis ne se laisseront dire par aucun pays où ils doivent avoir leur ambassade, a déclaré la représentante permanente américaine Nikki Haley. À noter que les 14 autres membres du Conseil ont voté pour la résolution. On ne mentionnait pas spécifiquement la décision américaine dans le texte, tout en notant de profonds regrets au sujet de récentes décisions concernant le statut de Jérusalem. On pouvait encore lire dans le texte « Toute décision ou action visant à altérer le caractère, le statut ou la composition démographique de Jérusalem n'a pas de force légale, est nulle et non avenue et doit être révoquée ».
Un train de passagers d'Amtrak a déraillé hier dans l'État de Washington lors de son tout premier voyage sur une nouvelle voie plus rapide, juste avant de passer sur un pont ferroviaire surplombant une autoroute bondée. Certaines de ces rames sont tombées sur l'autoroute. Il y a au moins 3 morts et plus de 100 blessés. 5 voitures et 2 camions ont été endommagés. On déplore des blessés parmi les automobilistes. Pas de morts de leur côté. Il y avait 78 passagers et 5 membres d'équipage à bord du train qui se rendaient de Seattle dans l'État de Washington à Portland dans l'Oregon. Le président Trump a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'accident et souligné la nécessité de réparer immédiatement les infrastructures des États-Unis.
En Iran, les écoles sont restées fermées dans la province de Téhéran pour la 3e journée consécutive en raison d'une pollution atmosphérique très élevée. Des détails avec Abdourahman Dia.
Limitée aux écoles primaires dimanche, la mesure a été étendue hier à tous les établissements scolaires de la province de Téhéran, à l'exception de 3 petites villes moins polluées. Les restrictions à la circulation imposées lundi ont été prolongées. Seules les voitures avec un numéro impair ont le droit de rouler. L'interdiction faite aux camions de circuler a été étendue jusqu'à demain. Les mines et les cimenteries fermées depuis dimanche devront rester fermées ce mardi. L'annulation de toutes les compétitions sportives est prolongée de 24 heures. La pollution de Téhéran, habituée à des embouteillages monstres, est aussi provoquée à 80% par les gaz émis par les pots d'échappement. Un nuage épais enveloppe la ville. À cette période de l'année, la pollution atteint des pics. La ville de Téhéran est située à plus de 1400 mètres d'altitude. L'air froid empêche l'air chaud et pollué de se dégager et l'absence de pluie renforce le problème.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La BAD engage 100 millions de dollars au cours des 3 à 5 prochaines années pour réduire le déficit d'infrastructures en Afrique. C'est notamment dans les secteurs de l'électricité, les télécommunications, les transports et l'industrie manufacturière. La gestion sera assurée par le Fonds de développement des infrastructures de l'Afrique émergente. Le fonds prévoit de créer plus de 3500 emplois. La BAD accorde également 118 milliards de francs CFA au Cameroun pour soutenir ses réformes économiques. Ce financement permettra la consolidation de la position macro-budgétaire, le renforcement du cadre de gestion des finances publiques, le renforcement du cadre réglementaire et institutionnel, ainsi que la compétitivité des secteurs productifs pour attirer les investissements privés. Enfin, en Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a ordonné le règlement des 2 mois d'arriérés de salaire des fonctionnaires. Il s'agit de novembre et décembre 2013. Les fonctionnaires centrafricains cumulent aussi des arriérés de plus ou près de 2 ans. Monsieur Touadéra a aussi annoncé dans un délai de 3 mois la liquidation des arriérés de créances de 9 milliards de francs CFA dus aux fournisseurs et autres prestataires de services de l'État. C'est à la suite du versement d'une aide de plus de 40 millions de dollars par le FMI.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Alors, les 3 finalistes pour le titre de joueur africain de l'année 2017.
Oui, les attaquants gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le sénégalais Sadio Mané et l'égyptien Mohamed Salah sont les 3 finalistes pour ce titre de Ballon d'Or africain 2017. Ils étaient 30 sur la ligne de départ, vous vous en souvenez, pour succéder à l'Algérien Riyad Mahrez qui avait été sacré joueur africain de l'année en 2016. La Confédération africaine a dévoilé la liste des 3 finalistes hier. Le favori, c'est le meilleur buteur de la Première Ligue, Mohamed Salah, qui flambe, vous le savez, depuis le début de la saison avec Liverpool. Pierre-Emerick Aubameyang, lui, est l'auteur d'une saison glorieuse avec Dortmund. Il a terminé meilleur buteur de la Bundesliga avec 31 buts lors de la saison 2016-2017. A noter qu'il avait gagné le Ballon d'Or africain en 2015. Et puis, le dernier sur cette liste des prétendants, c'est Sadio Mané, qui n'a rien gagné, évidemment, avec le Sénégal, mais qui est quand même dans cette liste des 3 favoris.
Messi se prépare pour le Classico face au Real Madrid.
Le FC Barcelone qui dispose déjà de 11 points d'avance sur le Real Madrid en tête du championnat d'Espagne. Le Barça qui pourrait creuser un écart important pour le titre en cas de succès samedi dans le Classico. Déclaration hier de l'attaquant vedette barcelonais, l'Argentin Lionel Messi. Mais attention, parler en décembre de plier le championnat, c'est très compliqué. Messi estime qu'il faut quand même se méfier et ne pas oublier l'Atlético Madrid qui est à 6 points.
Manchester City évoque une prolongation de contrat avec Pep Guardiola.
Manchester City qui aimerait s'attacher les services de son entraîneur Pep Guardiola à long terme prévoit des discussions avec le technicien espagnol en fin de saison. Guardiola, 46 ans, est arrivé en 2016 en provenance du Bayern Munich avec un contrat initial de 3 ans. Après une première saison en demi-teinte, Guardiola actuellement, avec ses joueurs de Manchester City, domine le championnat grâce à une série record de 16 victoires d'affilée et compte 16 points d'avance sur Manchester United, son grand rival et plus proche poursuivant. Allez Idrissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
New York Knicks et Charlotte, 91-109. Boston et Indiana, 112-111. Miami et Atlanta, 104-110. Philadelphie et Chicago, 115-117. Utah et Houston, 99-120. Portland et Minnesota, 107-108. Phoenix et Dallas, 97-91. Et les Clippers et San Antonio, 91-109.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Tout d'abord, le discours prononcé hier par le président américain Donald Trump sur sa stratégie de sécurité nationale, un discours centré sur son thème de campagne, l'Amérique d'abord. J'ai demandé à l'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Herman Cohen, ce qui différenciait la position de M. Trump de celle de ses prédécesseurs démocrates et républicains, Barack Obama et George W. Bush.
Écoutez, j'ai pas vu grand chose qui est différente de ses prédécesseurs, Monsieur Bush et Monsieur Obama. Il a dit, nous allons continuer à lutter contre l'État islamique, Al-Qaïda, etc. Et surtout, il a dit qu'il faut avoir une économie américaine beaucoup plus forte, parce que c'est l'économie qui donne notre force dans le monde. Je ne vais pas faire comme Obama, il était trop gentil avec les autres pays, il a donné des accords de commerce, et les autres pays ont profité, ils ont pris nos usines, etc. Donc c'était plutôt une politique isolationniste, mais en même temps, il a dit nous allons être engagés avec le monde, nous allons coopérer avec le monde, surtout les grands concurrents, la Chine, et la Russie. C'était un mélange de beaucoup de choses, mais je ne vois pas un grand changement après Obama.
Est-ce que vous vous attendez à un changement d'attitude vis-à-vis de Vladimir Poutine? Parce que là, comme vous l'avez dit, il a parlé de la Chine, il a parlé de la Russie qui défie la puissance, l'influence et les intérêts de l'Amérique. Donc, essaie de saper la sécurité et la prospérité de l'Amérique. Vous vous attendez à un comportement un peu différent vis-à-vis de Vladimir Poutine et de la Russie?
Oui, jusque maintenant, il était tout à fait gentil avec Poutine. Il refusait de critiquer Poutine. Mais dans son discours, il a identifié Poutine et la Russie comme un grand concurrent qui cherche à perturber les intérêts des États-Unis. Donc, il a fait un petit virage là. Mais en même temps, il dit, il y a certains intérêts en commun, par exemple en Syrie, et avec la Chine, dans la mer de Chine, où on peut coopérer. Donc on va sélectionner certains sujets où on peut coopérer, mais en même temps on va aller contre leurs efforts de nous donner des difficultés, n'est-ce pas? C'était un peu un mélange.
L'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Herman Cohen, pour sa part, Raissa Girondin a joint Emilio Viano, professeur de sciences politiques à American University, ici à Washington.
Il n'y a rien de nouveau dans le sens de ce qu'il a déjà dit pendant cette année de sa présidence. Il a critiqué certains pays, par exemple, a mis un accent particulier sur les puissances révisionnistes de la Russie et de la Chine, révisionniste dans le sens d'une nation qui essaie de changer le status quo mondial.
Le président, il a déclaré que la meilleure arme dont nous disposons, c'est la force de notre PIB. Un commentaire sur cette déclaration?
C'est clair ça, dans le sens qu'il a critiqué les anciens dirigeants comme des interventionnistes qui gaspillaient l'argent des contribuables et négligeaient les besoins des Américains chez eux. C'est-à-dire que le président souligne toujours, comme on dit, America first, c'est-à-dire un nationalisme très important, un populisme, et resserrer presque les frontières pour se distancier des accords internationaux et affirmer les intérêts nationaux particuliers.
En parlant de frontières, qu'avez-vous retenu de son discours sur la question de l'immigration?
Il n'y avait pas beaucoup que j'ai vu sur l'immigration, mais nous savons que le président a une vision négative de l'immigration traditionnelle historique qui a créé les États-Unis. C'est-à-dire qu'il pense plus à l'immigration sélective de gens qui ont déjà des degrés universitaires, des habiletés techniques, qui peuvent arriver ici pour son mérite. Parce que nous avons une immigration très forte, particulièrement en Amérique latine, du Mexique, de l'Amérique centrale et d'autres pays, même l'Afrique naturellement, des gens qui ont une très grande volonté de travailler et de travailler dans des emplois que les Américains ne veulent pas et qui sont essentiels pour le fonctionnement de l'économie nationale. C'est ça que le président rejette. Et dans mon opinion, naturellement, c'est une erreur formidable parce qu'il joue un rôle très important dans l'économie et dans le niveau de vie des Américains.
Emilio Viano, professeur de sciences politiques à American University, ici à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En République centrafricaine, épreuve du baccalauréat 2017, hier à Bangui, la capitale, et à Bria, dans l'est du pays, pour plus d'une centaine de candidats des zones en proie aux violences, ces examens ont été organisés malgré l'opposition des députés des régions du centre-sud. Sur place à Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
Un fait inédit, un baccalauréat national composé en trois phases. La première s'était déroulée en juillet dernier à Bangui et dans certaines régions du pays jugées calmes. En novembre dernier, c'était à Bangassou, dans le sud-est, que ces examens ont eu lieu. Aujourd'hui à Bangui, ce sont plus de 70 candidats, tous des déplacés des zones du centre-sud, du sud-est et de l'est qui composent. Marcel Kembe, président du centre.
Il s'agit des candidats venant des établissements suivants. Zemio, Bangassou, Kembe, Mobaye, Alindao et Bria. Il y a eu ceux qui se sont manifestés après l'appel du ministère au fin de pouvoir organiser exceptionnellement pour eux cet examen. L'initiative prise par le gouvernement, c'est au fin de pouvoir racheter ceux qui n'ayant pas été sur place quand on avait organisé l'examen à Bangassou et qui sont à Bangui.
Ce calendrier établi par le ministère de l'Éducation a surpris les députés des régions du centre-sud. Pour ces élus de la nation, il est inadmissible que le gouvernement ne prenne en compte qu'une partie des élèves de ces zones en proie aux violences. Maxime Garendo, porte-parole du collectif des députés de la Basse-Côte.
Nous, députés de la Basse-Côte, nous opposons fermement contre une telle décision qui n'est pas en faveur de notre population scolaire. Faut-il signaler que depuis quelques jours, la situation sécuritaire dans la préfecture de la Basse-Côte connaît quelques débuts d'amélioration. Il y a un sentiment favorable sur la question du redéploiement de l'autorité de l'État. Fort de tout cela, nous nous élevons contre cette décision et protestons énergiquement contre tout simulacre d'examen organisé à Bangui.
Pour le gouvernement, il était nécessaire de donner la chance à ces élèves qui ont fui leur localité et qui ont la possibilité de composer ici à Bangui. Moukadas Nour, ministre de l'enseignement primaire et secondaire.
C'est un examen national qui doit se faire à l'échelle nationale et auquel tous les candidats doivent participer. Ils doivent subir ces examens. Autrement dit, ça va être compliqué pour la suite. Parce que fin décembre, c'est déjà les premières évaluations qui vont démarrer dans tous nos établissements. Et ce serait difficile de rattraper. Aujourd'hui, les quelques élèves qui sont ici à Bangui, il est de notre devoir de leur donner cette chance-là. Surtout pour ce qui concerne Alindao et les autres localités. Mais pour Bria, il n'y a pas de problème à partir du moment où l'épreuve du baccalauréat se fait de façon simultanée. C'est-à-dire en même temps que les élèves qui sont dans leurs centres respectifs subissent le baccalauréat, en même temps aussi, ici à Bangui, les ressortissants de ces centres-là, le BIA, eux aussi subissent l'épreuve du baccalauréat.
Ces épreuves lancées ce jeudi se déroulent simultanément à BIA dans l'est du pays. Elles prendront fin le jeudi prochain. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
La journée internationale des migrants, c'était hier, lundi 18 décembre. Depuis janvier, plus de 118 000 migrants ont rejoint l'Europe et 3 000 ont péri en Méditerranée. Pour faire le point, Ekia Badou a joint à Dakar au Sénégal Florence Kim, du bureau de l'OIM.
Bien évidemment, avec les récents rapports qui sont sortis dans les médias, le public a pu découvrir qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui croupissaient dans des centres de rétention en Libye, par exemple, qui n'étaient pas nécessairement contrôlés par les autorités libyennes elles-mêmes. Et nous avons procédé au rapatriement de plus de 15 000 personnes qui étaient en Libye et nous avons secouru plus de 2 000 personnes dans le désert du Niger, qui bien évidemment est encore plus meurtrier que la Méditerranée elle-même.
Au dernier sommet sommet, donc la Libye était présente. Elle a parlé de pouvoir travailler main dans la main avec l'Union africaine. Est-ce que vous êtes optimiste pour les mois à venir pour l'évacuation et le démantèlement des différents centres de rétention en Libye?
Ce n'est pas simplement qu'une position, c'est qu'on le voit par les chiffres. Il y a plus de 15 000 personnes qui ont pu être rapatriées et nous comptons en rapatrier à leur demande plus de 15 000 encore entre aujourd'hui et février. Ça nécessite une grande logistique et aussi du côté administratif. Donc, bien évidemment que là, il y a pas un courage politique, mais une volonté politique de travailler ensemble avec l'Union européenne, l'Union africaine, ainsi que la Libye, pour mettre fin à ces abus et ces violations des droits de l'homme qui sont honteuses.
Il y a aussi ce problème de nombreux migrants qui repartent dans les pays, acceptant aussi, financent l'aide au retour, et qui repartent de nouveau.
Vous savez, dans un premier temps, c'est vrai que ces personnes qui demandent à l'EIM d'être rapatriées, demandent à rapatrier chez elles, dans leur pays. Elles n'ont pas reçu d'argent à proprement parler, mais simplement d'un petit peu d'argent de poche, quelques dizaines d'euros, ça dépend des pays, pour pouvoir subvenir à leurs besoins immédiats et pour pouvoir prendre des transports pour entrer jusqu'à leur destination finale. Si on n'offre pas une véritable alternative durable à la migration, bien évidemment ces jeunes vont vouloir repartir. Ce qui a été mis en œuvre, notamment grâce au fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, qui est financé par l'Union africaine et qui est mis en place par l'OIM, lorsque la personne est rentrée chez elle, on offre les moyens pour qu'elle puisse recréer quelque chose, un petit business, chez elle, dans son village. Mais à la différence des autres réintégrations qu'on avait pu pratiquer jusqu'à présent, elles sont désormais collectives. Une sorte d'économie locale, communautaire, pour que ces personnes-là voient qu'il y a quelque chose à faire dans leur propre pays.
De Dakar au Sénégal, Florence Kim, du bureau de l'OIM.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.